au cinéma. Donc je précise qu'il y a eu une recomposition de notre panel par rapport au programme qui est imprimé, donc notamment Neil Gaiman ne sera pas parmi nous puisqu'il n'est plus sur le festival, je crois. Bon, mais nous allons aborder ce sujet. Avec nous pour parler donc des super-héros, alors en fait au cinéma, mais sur tous les supports autant que possible, nous avons donc quatre intervenants. À ma droite, Étienne Barillet, érudit, critique et spécialiste en particulier de Philippe Dick, dont Philippe K. Dick, dont les œuvres sont, me semble-t-il, assez fournies en super-pouvoirs. Enfin, on y reviendra. Un autre spécialiste de Dick, mais dans une variante plus spécifiquement cinéma, Daniel Tron. Je crois qu'on peut...
Je ne contrôle pas la manière dont on me présente. J'aime bien voilà. Plein de versions de moi-même.
Voilà, donc là, c'est une version où il est spécialiste de cinéma, ce qui n'est pas mal. À ma gauche, Lionel Davoust, écrivain, et qui a notamment... fait appel au super-pouvoir dans certains de ses romans, mais il nous en parlera si ça s'y prête. À ma gauche, Rémi Gourierec, dont le roman graphique, enfin la bande dessinée Big Crunch a reçu un prix spécial du jury des Utopiales hier. Big Crunch, dont le sujet est la découverte par des enfants du fait que leur père était un super-héros. Et donc, il y a une réflexion dans cette bande dessinée sur ce que signifie vouloir devenir un super-héros pour des enfants très jeunes. Alors, venons-en maintenant au sujet qui nous occupe, donc la question des super-héros au cinéma. Alors, la manière dont... personnellement, moi qui ai lu... donc, excusez-moi, je ne suis pas présenté vraiment, donc Simon Bréant, spécialiste de science-fiction, mais en l'occurrence ici, surtout amateur de super-héros depuis que j'ai su lire, à peu près. Et je dois dire que je pense faire témoigner d'une émotion très communément partagée parmi les amateurs de comics et de super-héros en particulier, qui est que le jour où j'ai vu pour la première fois, alors c'était pour Batman essentiellement, le Batman de Tim Burton, le jour où j'ai vu pour la première fois un super-héros crédible au cinéma, je me suis vraiment dit enfin on a une matérialisation en trois dimensions d'une réalité qui jusque-là était exceptionnelle, vivait dans mon imagination, mais qui n'était pas jusque-là, enfin qui n'avait pas cette vie que le cinéma peut imposer. Et je dois dire qu'ensuite, j'ai été extrêmement frustré de ne pas avoir de ces manifestations-là, en trois dimensions, pendant l'essentiel du temps pendant lequel je grandissais. Et que l'apparition d'une nouvelle tradition de super-héros, enfin, tradition, une nouvelle version, une façon de les incarner au cinéma, avec le X-Men de Bryan Singer et le Spider-Man de Sam Raimi, notamment... Ça a vraiment été le moment où tout d'un coup ces personnages-là ont acquis une existence une existence vraiment en trois dimensions. Alors, cette émotion-là, on va en parler, on va parler aussi d'autres aspects plus techniques, on va mentionner un peu toute une série de films, et il me semble que c'est vraiment un sujet qui touche beaucoup de... enfin, qui vous touche en particulier, je pense ouvrir les questions assez tôt par rapport à ce qu'on fait d'habitude ici où on attend un peu la dernière minute. Et donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les préparer, on lancera les questions vers le public assez tôt. Donc, la première chose, et là, chacun des intervenants peut intervenir comme il le souhaite, enfin, à votre volonté, la première chose que j'aimerais mettre en question, c'est comment se fait-il que, depuis donc une dizaine d'années à peu près, comment se fait-il que tout d'un coup, les films de super-héros aient pu fonctionner ? À quoi attribuer ces réussites ? Je pars du principe que, répondre simplement, les effets spéciaux, ça ne suffit pas, puisque les effets spéciaux étaient déjà bien au point avant cela. Donc, comment se fait-il que tout d'un coup, on ait eu réussite sur réussite ?
Bon, je vais commencer. Alors, on a une donnée économique majeure là-dedans qui sont les problèmes financiers de Marvel. Il y avait urgence, il y avait feu à la maison réellement, donc il fallait d'urgence trouver un débouché crédible. Donc de manière assez simple, il y avait d'abord une volonté vitale de le faire. Si on prend les adaptations de super-héros qu'on a eu avant, parce qu'on a eu un Spider-Man avec un costume qui baille et des ventouses qu'on voyait sous les mains ou autre, il y avait effectivement, il n'y a pas qu'un problème technique qui en fait partie quand même, mais là il y avait une vraie volonté pour sauver la baraque. Ça c'est une première chose. Donc déjà quand l'éditeur, quand celui qui possède les personnages veut le faire, c'est assez différent de même quand on avait le cas du premier Batman où on a une logique industrielle derrière, mais c'est surtout, ça vient du cinéma, ça vient pas de ceux qui possèdent le fond. Ça c'est la première raison majeure et simple, est déjà là. La seconde, elle est quand même technique, parce que quand on dit que les effets spéciaux étaient là avant, soyons clairs, le numérique arrive en 90-91 réellement. Comme on a la loi de Moore, comme on a des gens qui se spécialisent, etc., etc., il se démocratise au fur et à mesure. Et on a pour les films de super-héros un peu le même problème que pour le cinéma de SF, ça coûte cher. Et donc, très concrètement, les coûts de compositing, les coûts des images de synthèse, etc., oui, au début du 21e siècle, il devient économiquement viable de représenter un super-héros de manière réaliste. Avant, on aurait pu, mais ça impliquait des coûts absolument énormes. Il faut se rappeler que dans les mêmes dans Jurassic Park ou dans Mars Attacks, qui vraiment font la transition vers le numérique, on est encore à des personnages qui sont incrustés dans du décor réel, avec encore des mélanges en premier plan pour les gros plans, on reste sur de la maquette, parce que simplement, économiquement, ce n'était pas faisable. Donc on a, pour moi, il y a ces deux données qui sont fondamentales là-dedans. Après, et pour passer la parole aux autres, oui, déjà, il y a cette émotion-là, et je trouve ça parfaitement logique, par contre, de le faire, et pourquoi pas avant, parce qu'on parle quand même de héros et de personnages qui sont eux-mêmes déjà la propriété d'une boîte et qui sont déjà passés d'auteur en auteur en auteur avec des variations de forme et de design. Donc, ils se prêtaient particulièrement à une relecture sur un autre médium.
Le tout dernier Avenger est quand même le premier film à dépasser le milliard de dollars de bénéfices. Donc là, maintenant, on peut se préparer à une lame de fond pour la dizaine d'années à venir, d'autres films, peut-être pour le pire, parce que pour l'instant, on a bénéficié d'une génération qui, pour certains, avait des choses à dire en faisant un cinéma de super-héros, pour qui le médium super-héroïque parlait. Même si je fais une toute petite parenthèse, l'expression super-héros représentée d'une façon réaliste me semble un peu vide de sens, parce que quand même on parle de bonhommes avec des super-pouvoirs qui se baladent en collant. Mais ça, on y reviendra.
Quand je dis manière réaliste, c'est de manière extrêmement simple. Hein. Il suffit de voir la première adaptation de Spider-Man, comme je dis. Il a un pyjama avec des plis. On voit la manière dont il se déplace. Donc, quand je dis réaliste, c'est faire un Spider-Man qui se déplace entre des gratte-ciel avec la même aisance que nous donne que l'impression donnée par la forme BD. Je prenais simple ça. De manière, on vit le même personnage au cinéma que dans la BD. Voilà, c'est juste ça. Avant, on avait des vrais problèmes de représentation des pouvoirs. C'était faisable, hein, parce que le vol de Superman dans les versions de Richard Donner au début des années 80, c'est des plans qui... Enfin, il y a une partie des plans d'effets spéciaux qui n'ont pas tellement vieilli, hein, qui ont été bien faits. Mais il a fallu un budget phénoménal pour les produire, avec un petit côté kitsch quand même.
Et un facteur quand même important qui fait partie de la logique industrielle, évidemment, mais c'est le fait aussi, et c'est ce que tu indiquais, Étienne, c'est le fait qu'il y ait une vision d'un réalisateur. C'est-à-dire que pour aussi que ces films aient pu donner chair aux personnages, il suffit pas qu'il y ait des effets spéciaux, il faut qu'il y ait une visée artistique, que réellement des réalisateurs comme Sam Raimi, comme Ryan Singer, comme Guillermo del Toro pour Hellboy, s'approprient le personnage en respectant autant que possible. Alors, on va venir à la question du respect et de la transmission. Mais il faut qu'il y ait une vision artistique pour que réellement les personnages soient, disons, respectés comme autre chose que justement des gars en collant qui ont forcément une part de ridicule. Il faut quelqu'un qui soit capable de dépasser le ridicule. De ce point de vue-là, donc, une des questions qui se pose, c'est comment rendre ces personnages humains au cinéma, puisque finalement de ce point de vue là on a nécessairement, enfin on a un aspect vivant et une nécessité de diriger des acteurs, de diriger leur interprétation qui a donné un certain nombre de catastrophes, je pense par exemple à Daredevil, enfin catastrophe, c'est subjectif, bien sûr.
Non, tu peux y aller, c'est une catastrophe.
Mais voilà, on voit ce qui se passe lorsque même un bon acteur, dans des conditions optimales de réalisation, se trouve dirigé sur un type de personnage qui n'a pas été bien compris, bien perçu. Et il y a un risque de ce point de vue-là, à chaque fois qu'il y a une adaptation, que le personnage soit, je dirais pas trahi, mais en tout cas qu'il ne se manifeste pas bien.
Mais l'exemple canonique qui nous évite en plus d'avoir à dire on n'aime pas le film, même si Daredevil, il y a le Hulk de Ang Lee. Où voilà, là typiquement on allait prendre un réalisateur qu'on aimait bien, qui lui n'a pas de culture comique. Du tout. C'est pas quelqu'un qui le lisait, il découvre le personnage. Et moi quand je regarde le film comme ça, j'y trouve plein de qualités. Notamment par le décalage. Il y a un vrai effort, parce que c'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas le super-héros. Donc il y a un vrai effort de creuser ces personnages, mine de rien, mais qui du coup a eu un accueil hyper, on va dire, mitigé, pour ne pas dire qu'il a scandalisé énormément de gens, parce qu'ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu justement cette expérience de la BD. Ils n'ont pas eu ça, alors que le traitement est tout à fait intéressant. Mais c'est dur, parce qu'on le truc spécifique, et tu le disais bien avec le comic, c'est l'effet d'attente. Ils savent qu'ils parlent à un public qui est habitué à ça, qui recherche des effets, et puis on est quand même dans une industrie de la BD. Il y a la logique industrielle du cinéma qui n'est pas la même exactement, bien sûr, mais très très différente. Mais le comic, c'est aussi une industrie où on a des modes, on a des manières de représenter et qui conditionnent énormément les récits. Voilà.
Alors, Rémi Goyerec, comment donner une. Comment rendre humain les questions de super-pouvoir, les questions de super-héros? C'est des questions que vous êtes posées forcément pour votre ouvrage.
Oui. Aujourd'hui, le super-héros, enfin moi je l'exploite comme un mythe en fait, c'est un mythe accepté au même titre que le vampire ou le zombie, et en disant c'est un super-héros, parce que moi mon super-héros en fait est là en toile de fond, c'est le père mais qui est disparu, qui disparaît très tôt de l'histoire, donc qui est là, il est là derrière, donc j'utilise comme, je dis c'est le super-héros de la ville, et les gens s'imaginent déjà ce que c'est sans que j'aie à définir tout de suite ses pouvoirs, sans que j'aie à définir ce qu'il fait vraiment, est-ce qu'il arrête des méchants, donc moi j'utilise comme ça, et du coup on en arrive avec la notion juste de là c'est ses enfants, donc ils ont la peur de la protection de l'identité de leur père, d'identité secrète, parce que ça va avec le mythe du super-héros, ça peut être décalé, mais moi j'exploite vraiment dans le côté brut, quoi, le super pouvoir, identité secrète, costume moulant un peu ridicule, il y a nom un peu ridicule aussi, enfin, il s'appelle Cosmos, ça pourrait être plus original, mais j'ai fait exprès que ce soit un nom un peu facile comme ça, et donc derrière, on a ce mythe qui est loin, moi j'utilise vraiment lointain, c'est comme ça que j'arrive à rendre humain, je n'ai pas eu encore à faire vivre ce super-héros, à le faire parler, on parle de lui en fait, et donc du coup il est humain, le super-héros n'est pas humain, mais les gens qui en parlent sont humains, donc je vais peut-être avoir des problèmes le jour où je vais avoir besoin de le faire parler et de le faire vivre, j'aurai peut-être d'autres problèmes à le rendre acceptable humainement, parce que j'essaye de travailler de façon un peu réaliste sur les comportements des gens, donc j'aurais peut-être un problème à ce moment-là, mais pour l'instant, j'exploite vraiment comme un mythe en toile de fond. Donc ça, mais en partant du principe que le lecteur, de toute façon, accepte ce qu'est ce mythe aujourd'hui.
Alors, vous mentionnez le vampire et les mythes qui peuvent vivre, et en fait, il me semble que parmi les choses qui peuvent expliquer l'importance du super-héros, enfin le fait que le super-héros fonctionne, c'est qu'il y a quand même une ambiance plus générale de ces personnages qui ont des pouvoirs, qui fascinent parce qu'ils ont des pouvoirs tout en restant humains, et la mode des vampires, l'intérêt pour les vampires, les loups-garous, fait partie pour moi, alors bien sûr on est dans des domaines différents, mais fait partie de ce genre de choses, c'est-à-dire l'idée qu'on a passé en fait presque un palier par rapport aux héros des années 80, enfin 70-80, les héros d'action qui était déjà indestructible. Enfin, je veux dire, Bruce Willis est déjà un modèle de personnage incassable. Et ce qui a permis le film de Shyamalan ensuite sur ce thème-là, ces personnages incassables qui réussissent quoi qu'il arrive, tout en étant en principe encore humains, se sont trouvés transformés par une surenchère progressive on peut traverser les personnages de Terminator qui sont aussi des individus à super pouvoir en un certain sens. Ils ont traversé une série d'étapes et la surenchère actuelle, c'est carrément les super-héros qui crèvent l'écran. C'est-à-dire qu'on peut faire une généalogie comme ça, peut-être, du super-pouvoir. Mais si on remonte encore dans cette question de la généalogie, l'idée du super-pouvoir, c'est quelque chose qui est présent au départ dans la science-fiction, dès le départ dans le principe du surhomme de science-fiction. Et on peut peut-être s'interroger sur la différence de traitement qu'il peut y avoir dans le super-pouvoir, l'individu, le surhomme qui a des capacités mentales. Je pense au surhomme, par exemple, qu'on voit dans les récits de Philip Dick, qui donne lieu à des adaptations. Quand on voit les précognitifs dans Minority Report, on est dans un usage du super-pouvoir, un usage extrêmement localisé et qui devient sociétal. Mais on a la figure du super-héros, l'idée du pouvoir que quelqu'un aurait et qui donne lieu à des modifications, à une action sur la société.
Non. Ok. Je dirais oui. La différence qu'on a, c'est qu'effectivement, on pourrait très bien prendre des éléments précis, thématiques comme ça, de pouvoir de télépathie, etc., et faire un grand sac. Le truc quand même du super-héros, c'est aussi la structure narrative et le type de récit. On est dans du récit épique. Et là, à ce niveau-là, je suis parfaitement d'accord. Les héros d'action du cinéma continuent une énorme tradition littéraire qui est, je vais pas dire immémoriale ou de tout temps les hommes, mais qui traverse vraiment l'histoire de l'ensemble de la littérature ou l'histoire des récits, où effectivement, on a un héros qui, par code, va arriver. Il va réussir. Il va être soumis à des épreuves qu'il va réussir à passer et qui vont permettre de démontrer sa valeur et d'aboutir à une réussite ou à une quête ou autre. Donc je pense que le super-héros, au-delà de la forme que les différents pouvoirs peuvent prendre, est avant tout une réinterprétation très très liée à ce modèle épique. Hein, on a une interprétation du grand monstre, de la grande épreuve. Après, on a quand même des différences ou des choses qu'on accepte sans problème dans les comics on aurait beaucoup de mal à les avoir dans de la science-fiction, même s'ils s'en servent. Le fait d'avoir Thor. On a des auteurs...
On peut l'avoir dans la fantasy.
Voilà, on peut l'avoir dans la fantasy. On a des auteurs de SF, on a des gens comme Zelazny, on a d'autres qui utilisent ou Neil Gaiman, qui utilisent ces grandes figures-là. Par contre, pour un livre qui serait un livre de science-fiction, mélanger un mutant avec un dieu d'Asgard... Pour réussir à respecter le principe de cohérence cognitive et de plausibilité de la chose, on va commencer à ramer quand même. Hein. Après, par contre, je voulais laisser la parole à mes camarades si vous voulez dire un truc. Sinon, je voulais en venir sur comment on les rend humains, parce qu'on a différents modes. Donc, on peut distinguer différentes manières de les rendre humains, etc. Je reste sur le cinéma, même si évidemment, ce qui me vient en tête, c'est aussi le travail de Moore, c'est aussi Miracleman, où il prend au second degré, en fait, il met en abîme l'évolution de la figure du super-héros, avec justement ce héros qui vient de la période des années 50, en plus à la période la plus ridicule, hein, où on avait la Batgirl, la Batmite, et qui, en fait, donc est rentré en sommeil, ne se souvient plus de ça, et d'un coup récupère la mémoire à une période contemporaine et avec tout le décalage qu'il y a, et donc en fait il met en abîme la différence de traitement entre les deux périodes, et quand il se réveille dans le présent, effectivement tout ce côté chatoyant a disparu. Il parle d'un jeu à l'époque où justement le méchant devait absolument déclamer son plan juste pour laisser le temps au super-héros de se sortir du piège complètement ridicule dans lequel il était, et là il se retrouve dans une situation mortelle où le danger il est réel, où maintenant tout est placé de manière noire, donc ce décalage du noir qui est vraiment un décalage réaliste. Dans les films, on a les codes du teen movie, depuis les adaptations de Richard Donner de Superman, donc pour reprendre très vite les codes du teen movie, même si on les connaît, hein, c'est le film pour adolescents, avec des scènes très très typiques, hein, justement du rapport à la transformation du corps, les scènes d'inscription dans la vie sociale américaine, donc avec la high school, avec les différents groupes, avec en général ce personnage qu'adore les États-Unis, celui de l'underdog, hein, c'est-à-dire de celui qui va peut-être réussir mais que personne n'attend, et qui va se révéler. Donc on a effectivement cette idée de la transformation, de la découverte des pouvoirs, où on reprend un schéma de teen movie. Et on, je dirais, on est déjà passé à, la, à l'autre version, à la version plus postmoderne, si on veut, qui déjà prend ça avec un degré d'écart. Incassable commence cette idée-là, avec déjà une mise en abîme de fans de super-héros qui... On va mettre en scène cette idée d'un fan de super-héros qui les cherche à tout prix dans le monde réel, avec le décalage qu'il y a entre le fait de déclencher des accidents de train et de tuer des centaines de personnes parce qu'on aime les super-héros et qu'on est sûr qu'il y en a, et bah, l'existence réelle du super-héros lui-même, car il a, on est dans une version assez surannée, parce qu'il faut absolument qu'il ait un point faible. Genre, plus personne aujourd'hui écrivant du super-héros dirait qu'il faut forcément qu'il y ait un point faible. On est déjà dans une version antérieure, hein, lui c'est l'eau. Et on a les films qui, voilà, qui prennent vraiment cette culture du super-héros au second degré. Donc on a Protector avec Woody Harrelson, qui est un film tout à fait poignant sur quelqu'un qui a, je trouve, qui est un film assez poignant où on a un personnage qui a eu un problème. J'ai pas envie de vous le gâcher si vous l'avez pas vu, mais en gros c'est quelqu'un qui s'habille en super-héros, qui va agir comme un super-héros et qui a lui aussi une idée d'un super méchant qu'il doit absolument vaincre, et on découvre au fur et à mesure en fait les racines psychologiques de la raison pour laquelle il va là-dedans. On a évidemment Super aussi avec Ellen Page, qui est donc à peu près dans le même genre, et Kick-Ass, où là encore on joue et avec les codes du teen movie et avec les codes des super-héros, mais au second degré. On sait que ce ne sont pas des super-héros, mais des adolescents qui se prennent pour des super-héros.
Alors, dans cette question des codes et cette question de la connaissance des codes, ça m'amène un peu à un autre aspect qui est, dans quelle mesure est-ce que le succès qu'on peut voir au cinéma, le fait que ces blockbusters emporte l'adhésion de très nombreux téléspectateurs, dans quelle mesure est-ce que ça a un effet de retour sur les comics? Est-ce que réellement il y a un effet bénéfique pour la création en bande dessinée pour les comics du succès des super-héros? Est-ce que les amateurs de super-héros au cinéma se confondent avec des amateurs de super-héros en comics?
Je ne pense pas. Je ne crois pas, parce que ça serait formidable si tous les gens qui sont allés voir Le Seigneur des Anneaux se mettaient tous à lire après les romans. Je ne suis pas sûr que...
Vente fois 10 ou fois 100 à chaque fois. Hein.
Oui, mais je ne crois pas que la communication soit permanente. Qu'il y ait un effet d'écho.
Le Seigneur des Anneaux, il y a peut-être plus un effet de vente, parce qu'il y a cet effet de fascination pour l'œuvre originale. C'est plus difficile de trouver l'œuvre originale du Spider-Man de Sam Raimi. On ne peut pas dire spécifiquement, on ne peut pas mettre vraiment sur des étalages, regardez, acheter ce comic, c'est le comics de Sam Raimi. Il y a un effet de synthèse et un effet de réinterprétation qui fait qu'on ne va pas forcément retrouver les émotions qu'on a eues au cinéma en allant chercher les comics de ce point de vue-là. Donc il y a peut-être, enfin c'est un mais je vais continuer sur ta réponse, mais le Seigneur des Anneaux,
si,
c'est plus...
le personnage de Nick Fury, Samuel L. Jackson, il était déjà présent dans la bande dessinée de Millar, je crois, et il s'était inspiré de Samuel L. Jackson. Donc pour le film, ils font venir l'acteur qui avait inspiré le personnage.
Oui, il y a des effets de communication, d'autant plus que Samuel L. Jackson était ravi d'avoir ce rôle de toute façon. Et de ce point de vue-là, il y a quand même une popularisation de la culture du comics et du super-héros, et un effet de respect plus important pour cette culture-là, qui a quand même été, malgré sa vigueur, qui reste encore dans une espèce de ghetto économique. Je dis pas, bien sûr, il y a, on les voit dans les magasins, dans les librairies, on trouve les comics. Mais il n'empêche que la structure, et notamment aux États-Unis, ça reste une structure extrêmement ghettoisée, où on a des consommateurs de comics qui vont spécifiquement dans des lieux où acheter des comics, et il n'y a pas cet aspect grand public qu'on peut avoir dans le cinéma.
Je sais pas du tout. Je pense qu'il y a un premier effet, c'est que Marvel a pas coulé, donc ils peuvent continuer à produire des BD. C'est un truc simple, mais très très réel. Après, moi, ce que j'observe quand même, et notamment avec la ressortie de Spider-Man, c'est aussi l'invasion d'un modèle économique propre aux comics au cinéma. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit Wolverine, bon, qu'on peut, et c'est mon cas, détester, parce que cinématographiquement, mais je dirais purement cinématographiquement, c'est une pauvreté affligeante. Enfin, je veux dire, il n'y a plus personne pratiquement au cinéma qui ose faire un plan plongeant, tourbillonnant sur le héros qui hurle vers le ciel parce qu'il n'est pas content. Enfin, je veux dire, c'était déjà un cliché il y a 50 ans, quoi. Donc, cinématographiquement, c'est une horreur. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Par contre, ce qu'on voit, c'est effectivement dans ce côté du reboot. De je prends les mêmes héros, hop, je développe un autre univers. Tiens, et je vais vite, surtout. C'est qu'on peut avoir, à très très peu de temps près, deux auteurs qui vont même la même année s'emparer du même auteur, en faire des versions très différentes esthétiquement, changer l'univers, changer des choses. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est typique de l'industrie du comics et qu'on retrouve là au cinéma avec le succès. Ça, c'est assez étonnant de le voir aussi rapidement, parce que sur le succès des X-Men, on aurait pu se dire qu'ils, bon, ils avaient un 4, ils avaient un 5, ils avaient un 6, mais ils sont aussi héritiers de la période d'avant. Déjà faire un 3, les gens se disent qu'il va être nul. Donc on évite de faire X-Men 4, on fait un reboot.
Ils ont déjà fait le 3.
Oui, non, mais le 3 était minable d'ailleurs, mais Brett Ratner n'a jamais fait de bon film de sa vie, donc c'était pas étonnant. D'ailleurs, c'était une année noire pour les super-héros. Oui, hein. On s'attendait peut-être à voir X-Men 3 de Bryan Singer, qui aurait pu être intéressant. Et il y avait un projet, et on a pris finalement un Superman Returns complètement horrible et un X-Men 3 absolument affligeant. C'était oui.
Donc
ça
l'année. Il est encore possible de rater des films de super-héros, ce qui est quand même assez frappant. Mais justement, dans cette idée de rater, dans cette idée de reboot. La question qui se pose, c'est un petit peu que se passe-t-il lorsqu'on adapte ces super-héros parmi les choix qui sont les choix évidents que tout le monde a en tête, on a assez souvent un récit des origines, assez souvent, mais pas toujours, puisque les X-Men finalement ne nous présentent pas, enfin nous présentaient qu'après, une espèce de préquel, ne nous présentent pas un récit des origines, nous présentent une situation déjà présente avec des enjeux déjà en action, et donc on est in medias res. En revanche, le schéma classique, c'est un schéma des origines. Captain America, Iron Man, enfin tous les Avengers ont un effet d'origine. On va nous raconter comment ça s'est passé, comment c'est arrivé. Et donc, il y a cet effet de retour aux sources qui est inclus dans l'adaptation. Mais alors, dans ces adaptations de personnages, le fait de reprendre ces personnages, finalement, la question classique de l'adaptation, mais qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne à avoir ces personnages au cinéma ? Que se passe-t-il quand on passe de la planche en deux dimensions aux trois dimensions ?
Bon, j'y vais.
Juste une remarque, moi, ça me rappelle la sortie du premier Superman avec Christopher Reeve, qui avait pour slogan « Vous allez croire qu'un homme peut voler ». Et je crois que c'est cela, ce que l'on gagne. C'est que ça a un renforcement de notre suspension de l'incrédulité. C'est-à-dire que là, il y a du wow. Ça devient magique. Donc là, le film fonctionne. Quand j'y crois et que je me pose plus de questions et que je redeviens mon moi de 12 ans qui avait une affiche de Superman dans sa chambre.
Et on suit le premier. Moi, le seul intérêt du dernier Spider-Man, ce que j'y trouve, moi, c'est que oui, enfin. Je peux être dans la tête de Spider-Man en vision subjective, en 3D, au milieu des gratte-ciels. Bah, mine de rien, quel pied. Je déteste le film pour plein de raisons, parce que c'est extrêmement mal écrit, parce que bon, on peut. Mais il peut trouver son public. En plus, on est dans les comics, donc je sais que même moi, quand je lisais des comics, ça me choque presque moins, parce qu'il y a des trucs que j'aimais, des trucs que j'aimais pas. Et ça coexistait de manière tranquille. Bon, bah, il se trouve qu'avec ce film-là, c'est pareil. Moi, il me plaît pas, mais par contre. Les séquences grand écran 3D, je suis dans la tête de Spider-Man, je me balade entre les buildings, bah ouais, moi c'est un peu fantasme quoi, merci. Et je garde le film dans un coin chez moi juste pour ça.
Là, en jeu vidéo, encore meilleur. Jeu vidéo, voilà.
Bah oui.
Juste, bon, moi je suis très candide sur la question parce que bon, je suis lecteur, mais je fais pas de cinéma et je suis pas du tout spécialiste, donc je parle sous le contrôle de nos spécialistes. Mais sur la question des origines dans le cinéma, je pense que c'est des personnages qui sont iconiques, même sans avoir jamais ouvert un comics de sa vie, on les connaît tous et même on connaît quand même en grande partie leur histoire parce que c'est des symboles de la culture populaire. Je pense qu'ils sont tellement connus que une des raisons pour lesquelles, et d'ailleurs ça suit, je pense, je parle sous votre contrôle, mais sous l'évolution du comics qui est passé, comme en SF d'ailleurs, on est passé d'une époque très pulp, très action, à quelque chose qui était beaucoup plus réfléchi, et quelque chose avec des personnages qui sont beaucoup plus dans la faille, justement, et cet aspect humain, parce qu'au bout d'un moment, quand on a un héros invincible qui casse tout, Au bout d'un moment, où est l'histoire? Pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait une résistance. Donc, et le point faible, la question du point faible, à mon avis, d'ailleurs, au fur et à mesure, est devenue l'humanité du personnage qui lui cause suffisamment de problèmes comme ça. Le poids de la responsabilité, c'est d'ailleurs assez criant avec Superman, où de plus en plus, il me semble que les adaptations récentes de Superman, qui est par essence invincible, se basent justement sur est-ce que ce type-là a sa place face aux failles de l'humanité. Mais c'est la question, pour moi, candidement, l'intérêt du super pouvoir et du super héros, et la raison pour laquelle probablement on se concentre autant sur les origines, c'est justement qu'est-ce qui fait de ce type-là quelqu'un d'humain, et qu'est-ce qui peut nous apprendre sur l'humain. Et je pense que c'est l'intérêt du super pouvoir, l'intérêt du super héros dans la narration actuelle de l'imaginaire, c'est cette espèce de justement cet éclairage entre la friction entre le côté larger than life. Du super-héros avec son super-pouvoir, mais aussi comment on gère ça au quotidien. Et d'ailleurs ça rejoint les questions de passage à l'âge adulte, comme tu l'as rappelé, et de la découverte de soi et de s'habituer à un état différent dans lequel on se trouve projeté sans vraiment avoir le choix.
On peut mentionner aussi peut-être par rapport à cette question-là les séries qu'il y a pu y avoir, comme Smallville, qui justement réfléchissent à des années de formation pour Superman, ou même la série Heroes, qui se concentre moins presque sur les pouvoirs, même s'ils sont fascinants et bien utilisés narrativement, que sur les différentes failles humaines des différents personnages.
Oui, puis je pensais qu'on n'avait pas évoqué ça, mais le fait, et puis le traitement un peu différent chez DC, mais sur Batman, juste pour la BD même, je veux dire, le grand choc de Moore Miller, c'est de le reprendre et de se dire, bon, c'est un mec qui s'habille en chauve-souris pour aller casser du délinquant la nuit, le mec il est pas net. Déjà d'une, et puis d'aborder frontalement, de manière très réaliste, le problème de sa normalité physique et de le projeter avec l'âge. Et ça, bizarrement, toi on a dû vivre la même chose. Moi j'ai attendu depuis 89, il m'a fallu 20 ans pour que j'ai enfin le Batman que j'aime à l'écran. C'est un Batman traité plus SF. Réaliste, on va justifier technologiquement tous ses pouvoirs, on va essayer de les rendre crédibles. Je ne parle pas de la première partie de Batman Begins, hein, je ne parle pas de la partie cliffhanger où le mec en chaussette il monte l'Himalaya pour aller ramasser une Edelweiss et avant d'apprendre à manier le sabre avec Qui-Gon Jinn, donc un maître Jedi sur la glace. Mais après, oui
effectivement, les Dark Knight, enfin la série de Christopher Nolan, c'est extrêmement inspiré du Dark Knight de Miller, c'est une évidence, avec un effet de signature visuelle. Alors ça c'est peut-être un aspect qui est frappant et qui n'est pas toujours, enfin, associé à une réussite forcément de l'histoire, mais on a quand même aussi cette volonté pour les réalisateurs de refaire des scènes qui ont été frappantes dans les comics. On va retrouver, et ça il y a quand même un respect important aussi d'une identité visuelle de certaines scènes. Je pense notamment au combat contre Bane, qui rappelle en fait non pas le combat contre Bane au départ, mais le combat contre le chef des mutants dans le Dark Knight de Frank Miller.
Qui a été adapté en anime d'ailleurs, hein, le Dark Knight de Frank Miller. La première partie est sortie cette année en animation.
D'accord, j'ignorais. Donc en animation, on peut voir le Dark Knight de Frank Miller. Alors, j'envisage de passer la parole au public, ça vous va ? Donc s'il y a des questions, alors je vois pas bien malheureusement qui a pu lever la main en premier, et je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Il arrive. D'accord, donc on va commencer ici.
Oui, alors sur le côté réaliste des adaptations au cinéma, je trouve qu'il y avait déjà eu, c'est pas ma question donc je fais super court, hein, mais il y avait eu des choses déjà qui avaient été faites dans le milieu du comics, et je pense en particulier au moment où Grant Morrison avait fait les New X-Men, et où il avait considéré que les X-Men étaient quelque part des pompiers, des flics, et qu'il les avait habillés de façon assez paramilitaire, ce qui est exactement ce qu'a appliqué Bryan Singer dans les films, ce qui donne un côté plus réaliste, ce qui a été annulé dans les comics, ce que j'ai toujours trouvé assez drôle. Alors ma question, je fais rapidement, mais je vais essayer quand même de la déployer. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre DC Comics et Marvel. On a parlé d'icônes, je trouve que chez DC en particulier, il y a quasiment un niveau de l'archétype.
C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que le rapprochement, je vais développer hein, rapidement, le rapprochement SF-super-héros est assez malvenu selon moi, parce que on pourrait trouver plus de choses du côté de la fantaisie historique, ou si on est dans la SF, on est vers Zelazny. Je pense par exemple à Morrison quand il avait refait la JLA, qui avait expliqué que lui considérait qu'en fait, il a fait une JLA en se basant sur le panthéon grec, où chaque personnage représentait un dieu. Et il y a un côté, je trouve, très archétype comme ça chez DC. DC. Et actuellement, quand on parle des films de super-héros qui marchent, c'est les films de Marvel. DC, à part l'exception de Batman, qui est déjà un personnage assez à part dans leur univers, n'y arrive pas. Alors, pourquoi il n'y arrive pas? Est-ce que c'est une raison technique ou c'est une différence de la façon dont les personnages sont envisagés dans tel ou tel univers entre les deux?
Question... J'ai pas très bien saisi le sens de la question, en fait.
Moi, je crois que je vais répondre sur la fin, sur le succès au cinéma entre les films DC et les films Marvel. Faudrait pratiquement prendre les films un par un. Non, parce que les conditions, faut voir que le cinéma... J'y vais super vite sur la première raison. Le fait de prendre dans DC ou dans Marvel, de toute façon, tous les super-héros ont été réinterprétés à la sauce des auteurs qui les prenaient en main de manière extrêmement multiple. Je ne vais même pas m'amuser à faire la liste. Je vais prendre les exemples les plus simples. On va prendre, Flash. Flash, au départ, c'est une réincarnation de dieu grec. Quand on commence à le prendre, quand il a été redéfini un peu plus tard, on s'est dit non, ça ne marche pas, ce n'est pas réaliste. Hop! Il a muté, il y a eu un produit toxique, il a muté, et si on le réinterprète un peu plus tard, on a un truc génétique, et si c'est dans 20 ans et qu'on a trouvé une nouvelle méthode pour modifier le corps et que ça marche, si ça se trouve, Flash, il sera nanotechnologique dans 15 ans. Donc ça, je sais pas, et là je suis pas compétent pour le dire, je sais pas s'il y a une telle différence entre DC et Marvel, parce que pour le personnage de Batman, le fait de le prendre de manière SF, pour moi est évidente, vu que tout repose sur une maîtrise technologique qu'il a et que les autres n'ont pas. Donc là, dans ce cas-là, je trouve ça tout à fait plausible de prendre l'argument SF et de dire, bah oui, il a des entreprises, il a des chercheurs, il a les moyens de faire en sorte. Donc on est dans une logique de recherche militaire secrète, on avance sur le reste du monde. Ça me paraît assez logique. Après, juste pour les succès des films ou pas, quand on voit Green Lantern, quand on voit Batman, quand on voit l'histoire de ces films-là, on est dans des histoires très particulières à chaque fois. Et c'est collectif, l'œuvre au cinéma. C'est-à-dire que l'histoire de chaque film nous apprend comment ils ont été faits ou refaits. Tu vois, quand on prend Superman, c'est une production complètement débile, le Superman de Bryan Singer. Enfin, je veux dire, très concrètement, il y a un comité qui a passé je ne sais plus combien de jours à décider de la taille du cache-sexe de Brandon Routh. Non mais réellement, je veux dire, alors que ces mêmes comités de scénario, ça les a absolument pas gênés pour qu'une nana qui a l'air d'avoir 20 ans, qui a un môme de 8 ans avec un Superman qui est parti... et qui revient, ça les gêne pas du tout qu'en robe du soir, en allant chercher son Pulitzer, elle aille faire une enquête au fin fond d'un yacht dans la ville pour trouver Lex Luthor dans les soutes. Enfin, voilà, juste pour donner un truc d'histoire particulière, ça c'est pour moi pas lié à DC Marvel, c'est l'histoire de chaque film.
Juste sur la question de la grille de lecture, après ce qu'on met sur science-fiction, fantasy, il y a quand même des tas de définitions différentes. Je serais quand même relativement d'accord pour dire que globalement, pour moi, le super-héros relève plus d'un ressort fantasy parce qu'on est plus dans une création archétypale ou du moins qui est mythique. Alors que la SF pour moi a plus une mission prospective et le super-héros n'a pas du tout vocation prospective, il a plus une vocation d'aventure et de mythe. Donc pour moi je serais assez d'accord pour dire que le super-héros relève davantage de la fantasy.
Mais je dirais ça dépend des auteurs. Quand Claremont, la grande période de Chris Claremont, quand il reprend les X-Men et qu'il décide de voir ce que serait notre société, comment elle réagirait dans son ensemble avec des personnages de mutants, il prend un argument campbellien.
Et qui est repris par Bryan Singer finalement. Enfin, de ce point de vue là, je trouve... En quelques mots, parce que ouais, je trouve que au cinéma, les super-héros sont plus de science-fiction que dans les comics, à la limite. C'est-à-dire qu'il y a quand même même si ça reste évidemment de la science un peu fantaisiste, il y a quand même cette volonté de nous montrer spécifiquement comment Spider-Man a ses pouvoirs, comment le Bouffon Vert fabrique ses machines, et il y a cette idée qu'il y a une... Et parce que justement, ça fait partie non pas d'un réalisme, à proprement parler, mais d'une crédibilité. Il y a besoin d'habiller quelque chose qui est effectivement... sont des ressorts archétypaux, le héros épique, comme ça a été mentionné. Mais on va quand même nous donner des petits détails, des petites choses qui vont être techniques, qui vont faire que ça va accrocher accrocher l'attention du spectateur qui va se dire d'accord, je peux suivre cette idée-là, je peux suivre l'idée que d'accord, il grimpe au mur parce qu'il y a telle et telle chose qui se passe biologiquement, qu'on m'a montré, comme on me l'a montré, c'est que ça existe et ainsi de suite. Enfin, donc il y a...
Avec l'idée que Marvel a fait le pari pour au moment des adaptations de développer de film en film un univers cohérent qui allait progresser, où on allait retrouver les mêmes acteurs dans les mêmes rôles, avec toujours cette petite scène à la fin du générique qui est là pour préparer une transition avec un film ultérieur. Donc on tease pour le film suivant dès la fin du film que nous venons de voir, et le public était prêt à recevoir cela, comme l'avait prouvé le succès des films Harry Potter, des films Twilight et tout ça. On était prêt à voir plusieurs films pour raconter une espèce de grande histoire.
Donc une autre question. Alors il y en a ici, ici, ici. On va essayer de faire au moins ces trois questions.
Moi je voulais poser la question du coup de la forme spécifique à la BD qui on essaye de le retrouver au cinéma avec des ralentis et des choses comme ça, parce qu'en fait la BD décompose le mouvement et on peut retourner en tant que lecteur sur la case précédente et sur la case suivante pour voir le mouvement. Et du coup voilà, qu'est-ce que vous pensez de la question de la forme purement cinématographique au cinéma?
Moi, je peux répondre pour moi comment je le vois. Moi, j'ai tendance à voir en termes de cinéma. En fait, d'ailleurs, c'est intéressant à entendre parce que je vois bien qu'en fait, je me rapproche, même si j'ai été lecteur des comics Marvel et DC, en fait, je me rapproche plus de la logique développée dans les films que dans les comics que j'ai pu lire. Donc, moi, je vois un peu les scènes d'action, effectivement, comme dans les films maintenant. Donc dans le traitement en BD, on est obligé de le faire sur une image. La solution, c'est des cadrages, un découpage qui va être plus dynamique et tout ça. Et donc après en film, j'ai l'impression qu'ils le transposent qu'ils essayent pas forcément de le transposer directement. Je retrouve pas ce que j'ai connu dans les années 90 ou au début des années 2000 dans les comics que je lisais avec ces découpages très francs, ces lignes de vitesse qu'on retrouve. Je l'ai pas retrouvé dans les derniers films que j'ai vus à ce niveau-là. Je sais pas.
Je vais te dire une énormité, mais je trouve que effectivement, je suis d'accord avec toi. L'adaptation, le fait de retrouver un peu ce grain et cette composition, ça se retrouve beaucoup dans les adaptations en film live. Côté manga, côté comics, oui. Je trouve pas. Côté comics, pour moi, toute cette espèce d'imagerie grandiloquente avec ses ralentis, ses bullet time, etc. Si on cherche à faire l'affiliation, pour moi, ça remonte principalement, cette manière de tourner a été popularisée en Occident par Matrix, et Matrix a tout piqué au cinéma asiatique. Donc pour moi, l'affiliation, elle est à chercher plutôt de ce côté-là.
Et même dans le travail sur les affiches, on n'est pas les affiches là où il pourrait développer quelque chose très très proche justement des cases de BD. On est dans les affiches de films. J'imagine qu'on pourrait me donner des contre-exemples, mais globalement, on est dans une logique plus poseur tout droit, alors que dans les BD, il va y avoir des poses très 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 désarticulées. Où on est même dans les affiches de films, on n'est pas en train de rechercher cette imagerie comics.
C'est effectivement, Grillant, je parle des adaptations de manga. Dans les adaptations film live de manga, vous avez des longs plans immobiles. Alors effectivement, c'est aussi dû au fait que c'est souvent réalisé par des réalisateurs asiatiques qui ont c'est un peu plus cette culture à l'image de la contemplation et du long plan fixe. Mais c'est aussi inhérent justement de cette structure du plan fixe et inhérent aux médias de la BD. Le comics ne pourrait pas, alors qu'il y a au contraire une focalisation justement sur l'action et sur le dynamisme et le fait d'avancer. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas au contraire de lien et de passerelle entre les deux vraiment.
Bon, effectivement, dans Avengers, il y a quelques séquences où je pense qu'ils ont eu cette intention-là de ralentir le temps et d'avoir ce moment quasi figé qui dure une demi-seconde. Je pense qu'il y a vraiment cette intention-là, mais c'est quasiment les seuls exemples que je vois.
Oui, ça va être spécifique à chaque réalisateur. Dans Watchmen, il essaye par moments carrément vraiment de reproduire des cases. On a des effets de ralenti qui sont vraiment très clairs, mais ça va vraiment être très spécifique à chaque réalisateur. Parce que, bon, après, on pourrait toujours jouer en disant que concrètement, un film avant d'être tourné, c'est une BD qui est affichée sur un mur avec le storyboard, mais ce serait tricher parce que ça n'a effectivement rien à voir. Et puis, quand on est auteur de BD, je veux dire, le rendu du mouvement, du dynamisme, et le jeu surtout sur le découpage. Dans la BD, tout se passe entre deux cases. Le blanc entre deux cases au cinéma, on ne l'a pas.
Oui, c'est un exercice complètement différent.
Alors, une autre question. Il y avait une question ici. Donc une question ici, une question ici, et on essaiera d'aller ici.
Bonjour et merci pour cette conférence. En fait, j'y suis venu à la fois par passion et à la fois parce que, on va dire que j'ai besoin de votre aide dans la mesure où je suis étudiant sur les comics. Je fais une thèse sur les comics. Et pour résumer les choses très brièvement, l'idée ce serait de prendre le support BD et de prendre aussi le support filmographique, de les comparer ou de les mettre en relation tout au moins. Et globalement, j'aimerais essayer de montrer, pendant 3 ans de boulot en gros, que l'imaginaire du comics répond dans son évolution à l'évolution d'un imaginaire collectif et culturel, en gros. Et donc, ma question, on a effectivement parlé du phénomène de reboot pour des raisons certes économiques qui sont, me semble-t-il, indéniables, effectivement, mais j'avais en mémoire une phrase de Mark Webb. Il aurait dit, au moment où est sorti The Amazing, il aurait dit on ne pouvait plus parler de Spider-Man à cette génération comme le faisait Sam Raimi, comme le faisait le personnage, enfin, l'acteur Tobey Maguire dans sa vision du personnage, dans son interprétation. Mark Webb semblait partir du principe, qu'il dise la vérité ou non, il semblait partir du principe que ce n'était plus possible d'en parler comme ça. Et en fait, ma question, ce serait effectivement, on a des super-héros qui aujourd'hui, au cinéma tout du moins, et effectivement dans les comics, ont complètement évolué. On a des super-héros qui sont très mélancoliques, très colériques, très sombres. J'ai en mémoire la scène où Batman tabasse le Joker dans le commissariat au point d'en empêcher la police de rentrer comme s'il avait un compte personnel à régler avec lui, alors qu'on a eu un Batman complètement chatoyant, complètement surréaliste, qui n'hésitait pas à livrer le criminel à la police plutôt que de s'en occuper lui-même. Et en fait, dans cette évolution-là, finalement très sombre, est-ce que vous pensez que ça reflète quelque chose de notre imaginaire et de notre société? Alors, pour le coup, assez pessimiste, puisque ce sont des héros qui, la plupart du temps, s'emmerdent ou souffrent, finalement. Je pense à Kick-Ass. Kick-Ass, pour moi, c'est une rupture totale, mais intéressante, une rupture totale avec le super-héros tel qu'on le concevait au point de départ des comics. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette évolution?
Pour moi, c'est pas forcément un phénomène qui est particulièrement indigène aux comics. Pour moi, c'est le flux normal de toute forme de narration. Là, on parle du comics, mais c'est présent aussi en littérature. Par exemple, aujourd'hui, on fait beaucoup moins de pulp parce que notre inconscient collectif est passé à autre chose. Donc je pense que les comics ont suivi cette évolution, mais comme la littérature l'a fait, comme le cinéma l'a fait. On parlait tout à l'heure de la difficulté de réaliser un film de super-héros à l'écran. Et pourquoi est-ce que ça marche maintenant? Je pense qu'il y a un élément de réponse aussi rapport à ça, c'est que Hollywood a atteint une sorte de recul et de maturité vis-à-vis de ses personnages qui permettent de concilier deux choses, qui est un numéro de funambule extrêmement difficile, c'est-à-dire dépenser des moyens énormes dans une production, dans des effets spéciaux, etc., mais tout en gardant une profondeur de narration. Et les blockbusters précédents dans ces domaines-là montrent que c'est quand même un numéro d'équilibriste que les producteurs et les collèges de scénaristes ont du mal à faire passer et ont du mal à réaliser. Donc je ne sais pas si le comics est indigène de ça, est révélateur de ça. Je pense que c'est simplement une évolution constante. Toute notre création narrative est le fruit de son auteur, mais aussi de l'état d'esprit, l'état du temps dans lequel il est. Et le comics révèle ça, mais c'est aussi en littérature, en SF, on a eu une grande vague dystopique qu'on avait moins avant. C'est, tout cela est un mouvement d'ensemble, et avec la culture globale, tout ça se pollinise. Moi, j'ai du bullet time dans mes bouquins, par exemple.
Tout genre est le résultat dynamique de codes qui sont appliqués à un type de récit et de l'habitude en face et des attentes d'un lectorat. Il y a toujours un jeu extrêmement dynamique entre les deux, et à partir du moment où on a et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est le problème, c'était de les rendre humains, et les rendre humains au cinéma, le réalisme dans toute œuvre de fiction, l'humanité dans une œuvre de fiction, il n'y a pas de réalité derrière. C'est une question de code, c'est une question, et un des codes du réalisme
On avait donc au moment de Sherlock Holmes, on avait des mystery novels. Et puis à un moment, on a décidé de prendre le vase et de le casser dans une rue sombre californienne, et on a fait le noir, où on va remettre en avant l'humanité de l'enquêteur. Ce n'est plus une machine intellectuelle, c'est un être avec ses propres failles qui va essayer de rassembler un puzzle dans un monde, et il n'y a plus un mystère détaché d'un monde. S'il y a un crime, c'est que le monde est comme ça, et s'il est résolu, c'est par un homme qui lui-même porte en lui toutes les contradictions. Et là, c'est un genre, le réalisme est un genre. Et donc, on a des essais génériques différents autour de ces différents super-héros. Et le cas de Kika, c'est ce que je disais tout à l'heure du postmodernisme, désolé de sortir le terme technique, mais le postmodernisme, c'est cette idée de prendre un genre au second degré pour un public qui connaît le genre et qui est prêt à le prendre au second degré. Et on va un peu, c'est une autre modalité du réalisme. La suspension d'incrédulité pour ce public-là n'est plus « j'accepte que ce personnage puisse voler », mais ce personnage est comme moi un lecteur de SF ou un lecteur de comics, par exemple, qui va se prendre pour un héros de comics dans la réalité. Et donc là, je change de mode, je change de genre. Je ne suis plus dans un genre où il y a des super-pouvoirs, je suis dans un genre où il n'y en a pas. Mais je suis quand même en train de tourner autour de ces mêmes figures et pour un public qui a ces mêmes données en tête.
Et la question devient d'autant plus complexe lorsqu'il y a en fait des influences de diverses époques, puisque la scène à laquelle était fait allusion est dans un film qui lui-même s'inspire d'une vision noire des années 80 de Batman, remise à un goût du jour actuel, mais il y a un mélange d'influences. Donc on a à la fois le reflet de la vision d'une société par Miller, une société devenue ultra-violente à la fin des années 80 dans son esprit, et la vision d'une violence problématique par les forces de l'ordre dans le moment actuel. Et là, ça se mêle évidemment à des questions qui ont notamment été popularisées par 24, de ce point de vue-là. La question de « est-ce qu'on tabasse les terroristes ?» Voilà, ça intervient comme ça.
Juste un mot pour... parce que bon, moi, je ne suis pas essayiste ni spécialiste, mais pour rentrer dans le côté création des choses, derrière les notions de code, pour moi, quand on raconte une histoire, qui est moi ce que je connais, il y a l'idée de promesse narrative. C'est-à-dire, et un code, à la base, quand un auteur écrit, enfin, en tout cas, ce n'est pas mon cas, il ne se pose pas la question du code dans le genre dans lequel il est, il écrit ce qu'il a envie de faire, mais surtout, il s'écrit une histoire de façon à ce qu'elle puisse être apprécié. Et derrière ça, derrière, quand on raconte une histoire, il y a une idée de promesse et de contrat qu'on passe tacite avec le lecteur. Je vais te raconter une histoire, on sait tous les deux que c'est de la fiction, mais le but c'est que tu y crois. Elisabeth Von Arbour dit dans son bouquin d'histoire et écriture, mens-moi mais fais ça bien. Et en fait, il y a une question de promesse, c'est-à-dire que si j'utilise par exemple une figure archétypale comme le super-héros, il y a tout un tas de promesses et d'attentes qui vont être associées à ça. Promesses dont je vais avoir conscience parce que je réfléchis à ce que je fais, mais dont je ne vais pas avoir conscience parce que je vais aussi être le fruit de l'époque que je suis, du milieu culturel dans lequel je vais baigner. Et donc, il y a des promesses que je vais remplir, et il y a des promesses avec lesquelles je vais jouer et que je vais briser. Et après, ces choses-là évoluent, et c'est comme ça, pour moi, de façon très humble, que la narration et que les codes, justement, se construisent, évoluent, sont brisés, sont remis en question. Mais du côté du labo de l'auteur, c'est juste une question de se dire... Quel contrat je vais passer avec mon lecteur ?
Alors qu'au cinéma, comme c'est collectif, que c'est un produit et que c'est cher, ça va être beaucoup moins inconscient. Il y a des gens qui, effectivement, vont être là pour définir un public, pour définir des choses. Et donc, comme c'est collectif, du coup, le phénomène devient conscient et fait partie de la conception de la chose.
Alors, on a peut-être le temps pour une dernière question. Donc, il y avait quelqu'un juste là, qui attend depuis tout à l'heure. Ouais. Merci.
Merci. Oui, bonjour, merci pour cette très bonne table ronde. En fait, ma question relie un petit peu la dernière question. C'est est-ce que la façon dont on représente le comics dans les années 70 n'était pas justement un révélateur d'une société américaine qui était assez optimiste ? Et est-ce que justement ce passage à des héros qui commencent à douter n'est pas l'image d'une société américaine qui commence à se poser des questions sur sa façon d'être ?
La reprise noire de Batman, c'est les années 80. C'est au cinéma, c'est 20 ans plus tard. Ben non, mais on parle de sûrement de traitement entre une période, une œuvre de fiction qui prend son propre pays comme décor est toujours le reflet déformé d'une période. De même qu'un futur projeté en science-fiction est toujours autant un chronotope, un monde autre, qu'une réflexion sur le monde dont il émane. À côté de ça, je dirais simplement que pour la reprise noire de Batman, elle date d'une époque où certes il y avait pour certains des auteurs qui vivent aux États-Unis, parce qu'il ne faut surtout pas faire les États-Unis un ensemble compact où on peut dire à telle période les États-Unis sont optimistes, à telle période cette société est optimiste, cette société est pessimiste, pour être honnête, ça
ça n'existe pas comme phrase. C'est jamais vrai. On peut avoir des périodes de crise ou autres, mais jamais on pourra le généraliser à un ensemble d'auteurs. Et à l'époque où Frank Miller, lui, voit une société qui devient complètement chaotique, ultra-violente avec la médiatisation, il y a des gens qui sont en train de dire « on est enfin sous Reagan, on a enfin quelqu'un qui ose affaire et nous sommes dans les meilleures conditions possibles ». Donc il y a une partie des États-Unis à cette période-là qui sont en train de se baigner dans les billets, qui adorent ça et qui sont extrêmement optimistes. C'est juste pour limiter.
Et puis, enfin, je parle sous votre contrôle, mais il me semble bien que Batman, en plus à l'origine, a été créé plus ou moins en réponse à Superman. C'est-à-dire Superman qui était le héros très de la lumière, très coloré, en pleine lumière, qui sourit aux médias et aux appareils photos. Et Batman est créé en réponse en partie à Superman, où justement c'est l'antithèse, c'est le type qui a pas de super pouvoir mais qui a de la technique, qui est dans la nuit, qui est très sombre et qui est très dark et qui effectivement veut aller casser la gueule au délinquant la nuit et qui véhicule quand même des valeurs. Et alors qu'on est dans un contexte
ouais, ça a été le résultat d'une évolution. Il y a un effet de bipolarisation, enfin de pôles de ce point de vue-là. Mais au départ, Batman est quand même plutôt sympathique. Enfin, même s'il a un pistolet qui tire sur des gens. Mais...
Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, actuellement, la dominante est peut-être un peu plus sombre, plus pessimiste, mais ce qui est sûr, c'est que ça va apporter des films qui vont vouloir contrer ça. Pour l'instant, effectivement, il y a, au même titre que Dark Knight dans les années 80 contrait une dominante positive, on va arriver avec des films beaucoup plus pulp.
Avengers, c'est pas très dark.
Oui, c'est
on
vrai.
Est plus dans le parc d'attractions, réellement, même en termes d'effets 3D ou autres, on est plus dans une espèce de jubilation estivale. Voilà, on se fait plaisir, réellement, plutôt que dark, même si pour qu'ils soient réalistes, les créatures, faut quand même qu'elles soient un peu geekeriennes.
C'est peut-être l'effet de groupe aussi.
Ouais, il y a un monde.
Bien, je vous remercie, on va arrêter là. Donc vous pouvez retrouver... Merci, vous pouvez encore retrouver nos auteurs en dédicace à la librairie. Merci.